Bonjour et soyez les bienvenus à écouter cette émission de Radio Linguistica. Elle porte le titre « Éliminer les barrières, les journaux publiés par les traducteurs de l'Union européenne ». C'est déjà un titre assez long, mais il est toujours incomplet. Il faudrait encore ajouter les interprètes, par exemple. On en parlera. En 2021, Punto y Coma, le journal publié par le département espagnol des services de traduction et d'interprétation des institutions européennes, fête ses 30 ans. Il avait donc été fondé en 1991, 5 ans après l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à l'Union européenne. Il est maintenant à son 171e numéro et a occupé la deuxième place dans le ranking du European Ombudsman Award for Good Administration. Punto y Coma est le plus ancien des journaux publiés par les traducteurs et les interprètes des services de l'Union européenne, mais point l'unique. Il y en a plusieurs qu'on ne peut pas présenter tous dans une émission d'une demi-heure, malheureusement. Nous avons donc choisi Punto y Coma et A Folha, son pendant portugais. Les deux journaux travaillent souvent ensemble, vu la proximité des deux langues. Je salue ici Leire Segura, Alberto Rissas-Yanes de la rédaction du Punto y Coma, ainsi que Victor Macedo pour A Folha.
Bonjour.
Merci d'être venu. D'ailleurs, Victor vient du Comité économique et social, ce qui montre le caractère interinstitutionnel des journaux. On en parlera encore. Quelques mots sur la genèse et l'histoire, d'abord de Punto y Coma et puis d'A Folha. Pourquoi est-ce qu'on les a fondés? À quels besoins ont répondaient-ils? Qu'est-ce que veulent dire les noms?
Peut-être je peux commencer. Et Alberto Rivas. Bon, en 1991, le service de traduction de la Commission, lequel deviendrait plus tard la DGT, n'était pas structuré selon un critère linguistique, mais thématique. Il y avait 7 unités de traduction, portugaise, espagnole, allemande, etc. Mais le lien entre elles n'était assuré que par un coordinateur linguistique, ainsi que la communication informelle entre les traducteurs des différentes unités de la même langue. Les DG clientes des unités étaient différentes, mais les problèmes de terminologie et de traduction étaient souvent communs. Et par conséquent, Punto y Coma est né d'abord pour répondre aux besoins de coordination et d'un espace de discussion entre les traducteurs avec une approche horizontale et égalitaire. Il faut rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas d'Internet ni de courrier électronique et que le moyen de communication des fondateurs de Punto y Coma était la photocopieuse, le fax et le téléphone. Très tôt, on a ressenti le besoin d'aller au-delà des limites de notre institution et un collègue traducteur du Parlement européen s'est intégré au comité de rédaction en 1995. Quelques années plus tard, ce sont les collègues du Conseil, du Comité économique et social et du Comité des régions, des centres de traduction, du SCIC, un élément clé d'interprétation, et de la Cour de justice qui ont rejoint le comité de rédaction. La composante interinstitutionnelle reste à ce jour l'une des caractéristiques essentielles de Punto y Coma. Le nom, Punto y Coma, point virgule, faisait allusion à notre matière première, la langue et sa représentation écrite, mais il était aussi en filigrane un hommage en même temps visuel avec l'image d'un point, et une virgule qui figurait sur le frontispice et littéraire à une revue littéraire espagnole des années 30 intitulée Cruz y Raya qui présentait l'image non pas d'une croix mais plutôt d'un signe plus et un signe moins ou tiret moyen.
Pour nous, la motivation était essentiellement la même. Foyer est né en 1993. C'était un espace de partage également des informations parmi les collègues de la commission. Commencé. Et comme pour Pontelecom, on voyait que les collègues, les traducteurs, ils ressentaient le besoin de faire connaître les solutions terminologiques et les conventions qu'ils devaient suivre dans leur travail. Le nom, qui veut dire littéralement la feuille, fut choisi pourquoi? Parce qu'il s'agissait purement d'une feuille ou d'un bulletin d'information. On voulait surtout éviter qu'on ait l'impression qu'il s'agissait d'une publication avec des prétentions scientifiques, une publication excessivement spécialisée. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'était le côté informel, convivial, accessible de ce nouvel outil. Et même la façon dont on écrit le titre, on l'écrit en minuscules et entre guillemets, ce qui est contraire à la règle portugaise. C'est déjà une façon de montrer une certaine irrévérence, c'est-à-dire on se concentre plus sur le contenu que sur les aspects formels. Ce n'est qu'à partir de 95 que Foyer s'est ouverte aux collègues des autres institutions, qui étaient eux aussi à la recherche d'un outil de ce type. Et moi-même, par exemple, comme Conrad a dit, je ne travaille pas à la commission, je représente le comité économique et social au conseil de rédaction, où je suis depuis 2008, et nous avons des représentants de toutes les principales institutions.
Eh bien, quels sont les sujets principaux de vos journaux? Vous pouvez peut-être nommer quelques exemples d'articles phares.
Oui, on essaye de couvrir toutes les dimensions de la traduction. D'abord, la discussion sur les néologismes ou de termes problématiques ou difficiles utilisés dans nos documents, mais aussi les réflexions linguistiques ou sur la traduction plus générale. On a publié par exemple des glossaires et des articles sur des termes de la santé, des finances, de l'économie, du Brexit, de la migration et de l'asile, de la cybersécurité, de l'énergie, de l'écologie, de l'informatique, du droit ou encore du sport. On aborde souvent les questions de toponymie, du langage inclusif, des technologies de la traduction, des questions sociétales de la traduction ou de la traduction en tant que profession. Il faut dire que Punto Coma a un grand nombre d'abonnés et de lecteurs partout dans le monde, y compris dans les pays hispanophones. Les traducteurs de langue espagnole des organismes internationaux où l'espagnol est une langue officielle, lisent aussi notre revue et, last but not least, nos articles sont souvent utilisés par les professeurs aux facultés de traduction espagnole dans leurs cours. Un ancien traducteur de la Commission et d'autres institutions, qui est malheureusement décédé récemment, Amadeu Sola, a établi en tant que coordinateur linguistique la traduction espagnole de gouvernance. À l'occasion de la publication d'un document politique de référence de la Commission. Jusque-là, il y avait plusieurs termes qui étaient utilisés en espagnol, mais Amadeu a publié un article sur Punto y Coma qui a consacré définitivement le terme espagnol gouvernanza qui avait déjà été utilisé en ancien espagnol. À ce moment-là, il s'est adressé à l'Académie royale de la langue espagnole pour demander que cette nouvelle acception soit ajoutée au dictionnaire normatif de l'espagnol. L'Académie royale a accepté la demande et aujourd'hui, c'est le terme qu'on utilise en espagnol partout.
Et juste pour ajouter, nous accueillons toutes les contributions qui ont un rapport à la traduction et à la terminologie, ainsi que d'une façon plus générale, au langage et à la linguistique. Beaucoup de nos articles, ont pour but de normaliser la terminologie, utilisée dans les institutions. Nous publions par exemple des listes de termes dans un domaine spécifique, tandis que d'autres sont consacrés à des aspects, grammaticaux ou stylistiques, surtout des sujets qui divisent encore l'ensemble des locuteurs maternels. Il y a d'autres, évidemment, qui vont examiner des aspects plus spécifiques, comme par exemple l'évolution des technologies de traduction, des articles sur la mémoire de traduction, les articles sur les pièges de la traduction automatique, etc. Une partie importante de nos articles vise à divulguer les résultats de nos débats à niveau institutionnel, notamment tout ce qui a trait à la mise à jour des listes de toponymes, par exemple, les listes de pays, de capitales, comment on adapte l'orthographe, et aussi les conventions que nous suivons suite à la réforme de l'orthographe de 1990. Et si j'attire l'attention sur ce type de texte, c'est parce qu'ils sont souvent les plus consultés, et très consultés notamment par les représentants des milieux universitaires et par des institutions officielles portugaises. Et ils ont déjà suscité même des réactions de la part de ces institutions que nous avons également publiées. Nous sommes conscients de l'impact que la terminologie des institutions a sur la législation nationale. Et c'est pour ça que nous consacrons une très grande importance à en assurer un usage cohérent et à divulguer de la forme la plus transparente possible les résultats de nos délibérations. Donc, article phare, je dirais surtout tout ce qui est les grands textes, les grandes listes de terminologie où nous avons approfondi un sujet spécifique.
Je suppose, Alberto, si tu dis, vous avez des articles sur le Brexit, migration, etc., c'est toujours axé sur la terminologie, plus ou moins.
Oui, normalement, c'est au sujet d'un terme ou bien autour de glossaires préparés par nos collègues terminologues. Oui, ça dépend, mais il y a d'articles plus brefs qu'on appelle cabos sueltos et aussi de collaborations avec bon, plus de termes, plus organisés en forme de liste.
Qu'est-ce que ça veut dire, Cabo
Cabos sueltos ce sont les questions qui sont ouvertes, qu'il faut
Mmh.
résoudre et que parfois on ne résout pas non plus.
Et j'ai entendu deux fois toponymie. Est-ce que ça pose un problème particulier, la toponymie?
Pour nous, ce n'est pas que ça pose un vrai problème, c'est juste le souci de harmoniser, si on veut, l'usage. C'est qu'il y a plusieurs pays, par exemple, surtout les pays les plus exotiques où le Portugal n'a jamais été vraiment bien représenté,
Il y en a peu,
dont
peut-être.
le
Oui,
nom,
oui.
il y en a beaucoup, mais en fait, ce sont des pays dont le nom n'a jamais été vraiment consacré en une forme portugaise officielle. Donc, on prenait souvent soit l'orthographe anglaise, soit l'orthographe française, donc l'influence étrangère, et nous avons essayé pour éviter justement les variations dans nos textes, nous avons essayé de harmoniser cet usage. Ce qui est intéressant parce que il paraît que au Portugal, personne ne s'était soucié de le faire avant nous, alors que les collègues du Conseil nous ont attiré l'attention là-dessus pour dire cela pose un réel problème parce que un jour on appelle une ville ou un pays en utilisant l'orthographe de l'anglais, dans un autre texte, ce sera du français. Donc ça posait de réels problèmes.
Eh bien,
Oui.
les deux, à plusieurs reprises, les deux journaux ont collaboré ensemble. Est-ce que vous pouvez donner un exemple?
Oui, il y a eu souvent des échanges d'idées et de l'inspiration réciproque entre les membres des deux journaux. En particulier, il faut signaler les synergies nées du contact professionnel entre Paulo Correia, du côté lusophone, et Luis González, du côté hispanophone, qui pendant des années ont travaillé ensemble à l'unité de la terminologie à la Commission. Et cette communication a produit notamment une liste de faux amis de deux langues qui est un grand hit de nos deux revues.
Il est clair que, comme les deux publications ont un début très semblable, et surtout aussi parce que les deux langues sont si proches, évidemment, beaucoup de nos collègues ils vont avoir les mêmes intérêts ou vont ressentir les mêmes besoins. Et c'est pour ça que nous avons aussi déjà publié des traductions d'articles qui avaient été publiés auparavant dans Ponto e Coma, notamment un article d'Agustín Jiménez. Et c'est grâce à lui, par exemple, que j'ai appris quel était le mot de l'année au Portugal, en 2017, juste comme curiosité.
Eh bien, dans 30 ans, beaucoup change ou tout change, les besoins, les priorités. Un journal doit donc faire de temps en temps peau neuve. Qu'est-ce que Punto y Comma a fait pour attirer de nouveaux lecteurs?
Oui, bon, je crois que je peux répondre à ça. L'équipe des Punto y Comma est bien consciente de la nécessité d'attirer de nouveaux lecteurs, mais aussi de garder ceux qui lisent déjà les journaux. Et on essaie toujours de garder une bonne qualité, tout en augmentant la variété des articles et en devenant un écho de la société. Par exemple, comme Alberto a dit, avec les articles sur des sujets d'actualité, tels que le langage inclusif, ou le développement des technologies linguistiques ou les outils de la traduction. Et ce sont des sujets qui peuvent attirer des nouveaux lecteurs qui ne sont pas peut-être si intéressés à la terminologie, par exemple, mais qui se font du souci pour d'autres sujets liés aussi à la langue. Et bon, d'un côté, on essaye aussi d'être plus proche de la réalité de la traduction d'autres langues aussi, et du travail quotidien de certains professionnels. Par exemple, lors du 30e anniversaire, on a voulu montrer quelle est la situation des traducteurs et interprètes de la langue basque, parce que on veut aussi que Punto y Comma soit un lieu de rencontre pour tous les professionnels ou les gens qui s'intéressent à ces métiers, et pas seulement pour les gens qui s'intéressent à la traduction dans les institutions européennes. Et on essaye toujours d'élargir un peu notre point de vue. Et d'un autre côté, on essaye aussi de montrer aux lecteurs qu'on a besoin de leur soutien, tel qu'on a fait récemment avec les concours El Palabra del Año, qui a eu un énorme succès l'année dernière.
Oui, je dois ajouter que ce palabre, si j'ai bien compris, s'est inspiré un petit peu de la campagne ou initiative allemande Un Wort des Jahres. Et je suppose que palabre veut dire exactement ça. Et voilà, évidemment, c'est une très belle initiative qui se discute beaucoup dès que le Un Wort ou le palabre de l'année a été publié. Alors, Afolia, qu'est-ce que vous avez fait pour attirer de nouveaux lecteurs?
Alors, évidemment, nous n'avons pas encore mis en place quelque chose de ce style-là. On n'a pas encore des concours de palabres. Évidemment, on pourrait l'envisager. Nous pensons plutôt au besoin de passer par de nouvelles plateformes, de nouvelles technologies pour attirer pas seulement de nouveaux lecteurs, mais aussi de nouveaux rédacteurs. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il est essentiel pour une publication comme la nôtre qu'on essaye de ne pas devenir juste un blog des institutions et qu'on reste vraiment un forum, c'est-à-dire un forum de discussion ouvert à tout le monde, qui sera ouvert à des blogueurs, à d'autres linguistes, à des traducteurs freelance, etc., etc. Là, je pense que c'est la voie pour y arriver. Mais évidemment, le plus important aussi, c'est de rester avec le doigt sur le pouls des lecteurs, comprendre quels sont les sujets qui intéressent, quels sont les sujets qui sont à l'actualité, qui sont à l'ordre du jour. Parce que si les gens viennent à la recherche de réponses dans une publication un peu plus accessible, un peu plus conviviale qu'une revue spécialisée et très scientifique. S'ils ne la trouvent pas en quelques minutes dans un langage plus convivial, peut-être qu'ils vont commencer à chercher ailleurs. Alors que le but, c'est que justement, on promeuve le plus possible l'harmonisation de la terminologie et de l'usage de la langue de façon plus générale. Donc, c'est plutôt sur cette voie-là que nous comptons nous
Oui,
lancer et
Victor,
pourquoi on voudra investir.
l'indique déjà. Et moi aussi, je m'imagine qu'il y a pas mal de difficultés qui menacent la continuité d'un tel projet. Par exemple, la charge de travail qui ne cesse d'augmenter pour les rédacteurs et aussi les lecteurs, les traducteurs, qui souvent sont incités à trouver des solutions rapides qu'offre l'Internet et qui donc ne prennent pas le temps de lire un article à fond. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à survivre et à fidéliser vos lecteurs?
Bon, pour Punto y Coma, je crois que la clé, c'est la qualité, en fait. C'est vrai que les délais de plus en plus courts nous poussent parfois à chercher des solutions rapides. On n'a pas toujours le temps de lire tout un article pour trouver une solution à un problème. Mais s'il s'agit d'un problème important ou d'un doute qu'il faut absolument résoudre, je crois qu'on est tous conscients du fait que Punto y Coma est fiable. Et voilà l'atout qui symbolise ces journaux, à mon avis. Tout d'abord parce que les gens qui publient sont d'habitude des gens qui des professionnels expérimentés avec une longue expérience dans les domaines, mais aussi et surtout parce que on sait que un article à Punto y Coma avant d'être publié aura été lu par tous les membres de la rédaction, du conseil de la rédaction. Qui auront examiné tous les détails. Et cela rassure énormément les traducteurs qui s'en servent. Et à mon avis aussi, la fidélisation est aussi une question de plaisir. Parce que Punto y Coma n'est pas seulement une boîte à solutions où l'on va chercher la réponse à un problème ponctuel, mais c'est aussi un magazine qu'on lit par plaisir, parce qu'on trouve des articles intéressants. Et c'est à ces moments-là qu'on apprend beaucoup de nouvelles choses, qu'on découvre des nouvelles options ou possibilités. Et par exemple, la section Cabos Sueltos, que Alberto a mentionné, là, on décrit des problèmes de traduction ou des terminologies qu'on a rencontrées, que peut-être on ne les a pas résolues, mais c'est un moyen excellent pour ouvrir un peu l'esprit, pour connaître le problème d'autrui. Et c'est le plaisir de lire des articles intéressants et importants pour fidéliser les lecteurs, je crois.
Moi, je ne pourrais pas être plus d'accord avec l'aide. Parce que le côté convivial et ludique, pour moi, ça doit rester une des caractéristiques d'une publication comme les nôtres. Hein. Ils n'ont pas de prétention à rivaliser avec les grandes publications scientifiques plus prestigieuses et qui attirent justement parce qu'elles proportionnent un forum de débat et des réponses également, mais dans un langage plus informel, plus accessible. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi en partie parce que les traducteurs ont moins de temps, comme Conrad a dit, qu'ils doivent chercher des réponses de façon plus rapide. Un traducteur qui est en train de travailler sur un sujet très difficile, il n'aura pas nécessairement le temps de faire des recherches très approfondies. Et donc, si nous arrivons à suivre, comme je soulignais auparavant, les sujets d'actualité à être capable d'accompagner l'évolution des sujets qui intéressent la plupart pas seulement de traducteurs, mais aussi de tous les locuteurs maternels, évidemment, cela devrait nous attirer encore davantage de lecteurs. Un vrai défi consiste à être capable de suivre l'évolution des technologies, parce que on doit être capable d'être pas seulement sur la liste des résultats pour les gens qui font des recherches rapides sur Internet, mais on devrait aussi parmi les premiers résultats. Et j'imagine qu'il y a encore tout un travail à faire dans ce domaine, notamment par exemple à travers les nouvelles plateformes, les réseaux sociaux, où on classifie nos contenus par thème ou par mots-clés. Je pense que c'est maintenant le moment de s'y atteler.
Oui, on parle du futur. Alors, une dernière question, est-ce que vous avez des projets pour le futur?
Bon, dans le cas spécifique de Punto y Coma, on est dans une période de transition. Il y a eu plusieurs changements dans la composition du conseil des rédactions. Il y a des gens qui viennent de partir à la retraite, des gens qui viennent de devenir membres de la rédaction. Et on est conscient que de cette forte rénovation et du fait qu'on doit garder tout ce qui fait partie de l'identité de Punto y Coma, comme la qualité des articles, par exemple, mais on doit en profiter pour donner un nouvel élan au magazine et aussi apporter des nouvelles idées et propositions. Et On veut continuer avec des initiatives comme le Palabro. On veut rapprocher les journaux des étudiants des universités pour qu'ils puissent vraiment y collaborer et ne pas les voir comme un journal trop intellectuel ou éloigné de la réalité quotidienne. Et nous aimerions aussi continuer à agrandir l'éventail des sujets traités, les collaborations. Alors bon, on a pas mal de projets à accomplir.
Pour notre part, nous cherchons aussi, comme je l'ai dit auparavant, à élargir le groupe de rédacteurs, ce qui implique accepter de nouvelles catégories de contributions, parce que évidemment, des gens à l'extérieur des institutions, ils n'auront peut-être pas les mêmes points de vue ou les mêmes angles d'analyse que nous. Mais nous avions déjà pensé, par exemple, à créer une section consacrée aux controverses linguistiques, par exemple. Une solution relativement récente que nous avons trouvée, c'est de faire des tirages à part, parce que j'avais parlé des listes de terminologie ou de vocabulaire que nous publions maintenant dans des numéros spéciaux. Chaque fois que nous voulons faire connaître une longue liste de termes spécialisés ou approfondir un sujet spécifique. L'exemple le plus récent pour nous, c'était toute une liste de terminologie sur l'ornithologie, avec une liste de 11 000 espèces, toutes les espèces d'oiseaux qui existent dans le monde. C'était un travail titanesque d'un collègue de la commission. Je pense que ça ne peut qu'enrichir notre image à l'extérieur. Mais il faudra encore tout un travail de sensibilisation encore pour attirer ce nouvel intérêt, ces nouveaux collaborateurs. Je dois dire qu'une chose que nous, chez Foy, que nous envions à Pontoicom, est justement cette capacité d'attirer des rédacteurs, des auteurs parfois très spécialisés, qui sont extérieurs aux institutions et qui valent à Pontoicom une excellente réputation en dehors des institutions. Donc, même si on est déjà fier de ce que nous avons accompli ces dernières années, l'exemple de Pontoicom restera toujours une référence pour nous et ça nous donne pas mal de pistes à explorer, des idées à venir.
Eh bien, merci beaucoup. Si donc vous parlez l'espagnol ou le portugais, n'hésitez pas à consulter les journaux qu'on vient de présenter. À coup sûr, vous y trouverez des articles qui vous intéressent. Ou bien, évidemment, cherchez le journal publié dans votre langue. Si vous ne savez pas si un tel existe, demandez à vos collègues ou cherchez dans les pages de votre département. D'habitude, c'est là que vous trouverez un lien vers le journal. Moi, j'ai vérifié pour Pontoicom et à Foy, là, on trouve un lien. Ou si un tel journal n'existe pas, fondez-le. Demandez l'aide de vos collègues qui ont déjà fait cette expérience. Eh bien, il ne me reste que de remercier Leire, Alberto et Victor. Bonne continuation et beaucoup de succès.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup, Conrad.